C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes mardi 30 mai. Bonne journée et bienvenue au 98.5. Alors, officiellement, on amorce aujourd'hui cette semaine de chaleur. Ce matin, on a déjà autour de 11 degrés avec un ciel dégagé. Le mercure va grimper jusqu'à 29, l'humidex 32. Demain, c'est du soleil 32. Jeudi, du soleil 34. Et vendredi, ensoleillé 32. Peut-être, là, ça va se préciser, de la pluie, 60% de possibilité d'averse, mais carrément en fin de journée, vendredi, peut-être même durant la nuit. Et pour le week-end, samedi, dimanche, un peu plus bas comme température, 24 samedi puis 27 pour dimanche. Entre-temps, avec ces températures élevées et cette chaleur, puis c'est du temps sec, là, c'est ce qu'il faut retenir, il y a toujours cette interdiction de faire des feux de forêt. Donc, des feux à ciel ouvert, ça a été prolongé. C'est pratiquement l'ensemble du territoire québécois. Et on sait que la plupart des incendies, la cause en forêt, ben, c'est la nature humaine qui est responsable. Une cigarette, un feu qu'on a mal éteint. Bon, il y a des cas où c'est la foudre aussi. Puis, entre-temps, ben, on regarde ailleurs. L'Alberta, ça s'est un peu calmé, mais je prends la situation d'Halifax. Là, il y a 16 000 personnes qui ont été évacuées. Et on peut dire que il y a déjà plusieurs maisons qui ont brûlé. Et c'est probablement les pires incendies pour Halifax. C'est vraiment, là, quand vous regardez en termes de territoire, ce qui est couvert, là, c'est immense. Et on a de la difficulté, en raison de l'épaisse fumée, de mesurer exactement les dommages. Alors, c'est sûr qu'en Nouvelle-Écosse, Colombie-Britannique, également, les feux sont majeurs, sont importants. Un mot pour vous dire, puisque je parle de l'Alberta, que Danielle Smith, la première ministre controversée, a été réélue. C'est un gouvernement majoritaire et elle a battu les néo-démocrates de Rachel Notley, qui a fait quelques gains, mais qui n'a pas pu là, rattraper Mme Smith. On parlait d'une élection serrée. Et comme c'est souvent le cas pour ce qui est des partis un peu plus à droite, on a de la difficulté à évaluer l'électorat. Mais donc, c'est une victoire là sans équivoque. Elle a été impliquée dans plusieurs controverses, notamment durant la COVID. Elle a été blâmée pour avoir mis son nez dans un dossier qui est entre les mains du ministère de la Justice. Et c'est quelqu'un qui représente finalement pas mal ce courant extrêmement conservateur. Et hier, dans son discours, tard hier soir, elle a dit « Bienvenue, c'est le miracle des prairies. On va faire tout ce qu'il faut pour que l'Alberta soit enfin reconnue dans ce pays. » Maintenant, pour ce qui est de l'Ukraine, les choses, disons, se détériorent. Il y a eu une attaque de drone à Moscou. On se souvient de l'attaque autour du Kremlin. Donc, des dégâts mineurs qui ont été causés, c'est ce que le maire de Moscou a dit. Au même moment, pendant la nuit, il y a eu d'autres assauts de drones russes, tuant au moins une personne, selon le maire de la capitale. Mais pour ce qui est de Moscou, on a pu intercepter. Évidemment, la réponse des Russes est venue très rapidement en disant que c'était une attaque terroriste, la deuxième après l'attaque du Kremlin. Alors, à Moscou, il y a un certain nombre d'immeubles qui ont été touchés, des gens qui ont été évacués. Il y a deux drones qui se sont retrouvés dans des immeubles, des tours là, résidentielles. Alors, on sent vraiment là que le drone comme arme d'attaque est de plus en plus utilisée. Et l'autre volet, c'est aussi de constater le nombre de crimes de guerre qui sont commis. Le New York Times rapporte ce matin qu'il y a 4 membres de la garde nationale russe qui sont accusés de crimes de guerre à Kherson. Et ces gens-là se sentent tellement au-dessus de leurs affaires, là, des espèces de sentiments de protection, d'impunité, qu'ils ne cachent même pas leur nom. Et ils se sont livrés à ce qu'on voit malheureusement dans des périodes de guerre, c'est-à-dire de la torture, des électrochocs, des quasi-noyades, quasi-pendaisons. Il y a eu quand même des décès. Et il semble que les procureurs ukrainiens qui bâtissent ces dossiers-là disent que dans cette prison où on a mis beaucoup, beaucoup de d'Ukrainiens qui faisaient partie de la résistance, la violence était inouïe. Ce serait un des pires cas documentés en Ukraine. On revient ici pour parler de l'investissement de Québec, 5,7 millions pour contrer la violence de rue, les armes dans les rues. C'est le ministre François Bonnardel qui a annoncé ça. Alors, 10 policiers de la Sûreté du Québec qui vont se joindre aux policiers de Montréal. Ça va commencer à l'automne. Puis, évidemment, ça s'ajoute à la collaboration avec Laval et Longueuil. C'est toujours bien, là. Il y a personne qui peut contester la nécessité d'avoir des investissements supplémentaires. Parce qu'on est en mesure de regarder pas mal depuis un an et demi, deux ans, ce qui se passait dans le Grand Montréal. C'est-à-dire cette violence désorganisée. Ces gangs qui se tirent dessus, qui laissent des douilles. Il n'y a pas une zone à Montréal qui est épargnée. Il y a des endroits plus chauds, évidemment. Il y a le trafic des armes. On s'achète des armes en volant des voitures. C'est à la hausse. Donc, on voit de plus en plus ces gangs de rue, mais aussi des vieux, des anciens de gangs de rue, qui, et Daniel Renault le rapportait très bien l'autre jour, qui sont passés à une autre étape et qui ne passent plus par des intermédiaires pour acheter de la drogue. Pendant ce temps, les Hells, qui fêtaient en région de Québec en fin de semaine, sont probablement les individus du crime organisé avec le plus de pouvoir. On a la filière italienne qui est, depuis quelques années, lourdement éprouvée, qui fonctionne beaucoup avec réputation. Tentative de meurtre contre Rizzuto, c'est quand même pas rien. Cette jeune femme, associée à son beau-père, par la force des choses, donc la belle-fille de Moreno Gallo, qui est abattue, une femme abattue par la mafia. Il se passe plein de choses à Montréal et dans le Grand Montréal. Et c'est sûr qu'il y a des citoyens qui sont inquiets. On parle du métro, on constate les cas dans le métro. Pas toujours de la violence extrême, bien sûr, mais un malaise en raison de la présence d'itinérants, présence de gens qui sont complètement déboussolés ou intoxiqués. Et c'est pas toujours une expérience agréable. Puis je le répète, on va le dire, là, le métro est un endroit sécuritaire. Néanmoins, c'est quand même dérangeant. Puis je regardais hier en Floride, un coin que les Québécois fréquentent, là, Hollywood Beach. C'est jour de congé hier aux États-Unis, c'est le Memorial Day. C'est en fin de journée. Hollywood Beach, là, c'est la plage, les bars, les restos. Puis c'est la fête, là. Les gens sont là parce que c'est congé. Et il y a deux groupes, d'après la police, qui se chicanent, puis on se met à se tirer dessus. Et là, les gens se tassent, se cachent, tu sais, en plein jour, là, finalement, dans un endroit hyper fréquenté. Ce qui fait que le bilan qui a été fait hier soir, il y a 4 enfants qui ont été blessés. 5 adultes, donc 9 personnes au total. 4 enfants, ça veut dire 1 à 17 ans, puis dans le cas des adultes, de 25 à 65. Il y a un cas qui a nécessité une chirurgie. On ne craint pas pour la vie, mais il y en a qui vont malheureusement garder des séquelles de ce qui s'est passé. Et ça s'ajoute à cette longue liste de, disons, de cas de violence urbaine dans des endroits fréquentés, là. C'est pas la nuit dans une ruelle, là. Ça se passe dans des endroits public comme celui-là. J'attire votre attention ce matin sur un article dans La Presse concernant les services de raccompagnement. Et je ne sais pas, à partir de votre expérience, qu'est-ce que vous allez en penser ou en conclure. C'est qu'on remarque que ces services perdent, je dirais, de la clientèle depuis la pandémie. Bon, c'est clair que pendant le confinement, pendant que les déplacements étaient limités, ça fonctionnait plus ou moins. Mais ce qu'on constate, c'est que le nombre d'appels a chuté de 45 % en moyenne au Québec, alors que les infractions pour conduite avec faculté affaiblie ont recommencé à augmenter. Et dans une entrevue donc à La Presse, Daniel Bédard, qui est le responsable du regroupement de conduite responsable au Canada, dit que les gens, espèce de constat, là, vrai ou pas, je ne sais pas, mais lui, ce qu'il pense, c'est que les gens vont moins dans les bars, boivent moins dans les restaurants, reçoivent plus à la maison, prennent un verre entre parents et amis. Plutôt que d'aller au resto, on fait ça à la maison. Ça coûte moins cher. Mais c'est comme si on oubliait que de prendre l'alcool à la maison ou au resto, ben l'effet peut être le même et que les gens hésitent donc à faire ce type d'appel. Alors, ce sont quand même des données importantes. Il rappelle aussi que moins de gens qui utilisent le service, problèmes financiers. Et là, il fait appel au ministère des Transports, à la Société d'assurance automobile, notamment pour qu'on soutienne ces programmes-là, puis souvent peut-être par de la mise en marché, pour que les gens se rappellent que plutôt de conduire avec les facultés affaiblies, puis de risquer de se blesser ou de blesser puis tuer quelqu'un, ben ces services existent. Et on a peut-être oublié avec la période de confinement que ça pouvait exister. On va parler d'économie, plein de choses ce matin. D'abord, l'investissement à Bécancour, la vallée de la transition énergétique. Le premier ministre, M. Fitzgibbon, M. Champagne. Et ça donne le ton sur le type d'entente qu'on va chercher. C'est-à-dire que General Motors obtient des gouvernements, Legault et Trudeau, ce qu'on appelle pré-subvention. Là, j'irai pas dans le détail, là, c'est un peu compliqué. Mais plus vous investissez, plus vous créez de l'emploi, plus votre prêt risque de devenir une subvention. Et on veut donc des garanties, c'est pas un chèque en blanc. Mais ça veut dire que pour 600 millions d'investissements, c'est quand même, au total, pour les deux gouvernements, là, pas loin de 300 millions que ça peut représenter. Puis il y a des prêts qui vont toujours aussi être maintenus. Je regardais en France ce matin, dans le Pas-de-Calais, c'est l'ouverture d'une immense entreprise, encore là, qui a bénéficié d'aides gouvernementales de toutes sortes. Et c'est pas un projet, là, c'est fait, là, pour justement pouvoir construire, aménager des cellules de batterie pour l'automobile. Alors, aux États-Unis, en Europe, c'est la course aux fonds publics et les joueurs disent « on est intéressés ». On peut aller chez vous, voici combien ça vous coûte. Et on ne sera pas de cachette, si Québec puis Ottawa font pas de chèque, il y a quelqu'un ailleurs qui va en faire un. Et les entreprises multinationales, capitalistes, des General Motors qui sont partenaires avec des Sud-Coréens. En France, ben vous avez France, mais vous avez également des partenaires qui viennent d'Italie. C'est comme ça que la partie va se jouer. Et en toile de fond, parce qu'il y en aura d'autres investissements dans ce grand corridor de la Mauricie. C'est très bien pour la création d'emplois. Mais quel sera l'impact pour ce qui est de Hydro-Québec? Et la demande, jusqu'où on va aller pour ajouter de la capacité de production, puis quel type de capacité? Ça fait partie des enjeux pour le ministre Fitzgibbon et le nouveau PDG, Michael Sabia. Et le Journal de Montréal nous dit ce matin, peut-être que vous l'avez observé, que le prix du diesel a baissé de 25%. Depuis le début de l'année. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, c'était assez élevé. Il y a Protégez-vous, vous allez voir, c'est intéressant, qui publie une étude ce matin concernant l'achat de matelas. Là, je me suis mis à lire ça, j'aime bien ça, ces articles-là. Alors, Costco et IKEA font une percée dans le top 5 cette année. Ceux qui sont les plus populaires, ce sont des petits détaillants québécois. Matelas La Pensée, Matelas Oud, Matelas René et Matelas Dauphin. Mais là, donc des magasins là quand même de région. Puis là, s'ajoute Costco et IKEA qui offrent des matelas à moins de 1000 $. Ceux qui sont les moins populaires, ceux qui génèrent le plus de plaintes, ben vous retrouvez Brault et Martineau qui est maintenant devenu Tanguay, puis vous retrouvez Brick. Si on veut être honnête, c'est sûr que quand tu as une grosse bannière comme Tanguay, le Brault et Martineau, qui fait bien de la publicité, qui génère beaucoup de clients, ben plus tu as de clients, plus tu as de plaintes potentielles. Mais ça veut dire que les gens se tournent beaucoup vers des plus petites bannières et vers des grandes surfaces là, qui offrent des rabais. Alors, c'est intéressant de lire ça ce matin. Puis là, il y a d'autres questions reliées à la consommation. Et d'ailleurs, les deux, là, Brault et Martineau, figurent chaque année au palmarès des commerçants qui recueillent le plus de plaintes du côté de l'Office de la protection du consommateur. Également, dossier de l'immigration ce matin. Vous lirez ce dossier dans la presse de Suzanne Colbron. Hier, la ministre a annoncé un guichet là, pour franciser tout le monde. Et la ministre Fréchette fait une très bonne job parce que elle a le mérite de défaire une coupe de squelette de la CAQ en matière d'immigration puis de messages confus. On a des étudiants étrangers. Il n'y a pas si longtemps, on disait non, non, vous n'êtes pas prioritaire. Maintenant, c'est devenu un objectif de vous garder ici. Vous êtes intégré, vous avez des enfants, vous êtes dans la région depuis plusieurs années. Donc, c'est un net virage. Sauf que, il y a, d'après ce qu'on voit, d'après certains sites où on fait la promotion de l'immigration, que le Québec a mauvaise réputation. Venez pas au Québec. Allez ailleurs, si vous voulez immigrer. C'est long ici. La bureaucratie est lourde, canadienne et québécoise. Rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, pour un francophone, c'était plus facile d'aller ailleurs au Canada que de venir s'installer au Québec. C'est assez intéressant. Autre dossier intéressant, c'est dans le devoir de Marie-Ève Cousineau. Il y a plus de 20 000 enfants québécois qui ont été dépistés par un programme qui vise à déceler les enfants qui ont des retards de développement. Là, on parle des tout-petits, des moins de 5 ans. Et ce qu'on se rend compte, c'est que l'attente moyenne en orthophonie est d'au moins 10 mois dans une dizaine de régions. D'ailleurs, selon le code postal, ça peut varier. Ce qui n'a pas de bon sens. Parce que plus on tarde à intervenir auprès des enfants en bas âge, plus les problèmes vont évidemment s'aggraver. Et il y a des parents qui ont beau avoir des ressources, là, puis un peu d'argent, même au privé, c'est compliqué. Alors, il semble qu'il y a un enfant sur quatre. Moi, ça me jette à terre, mais qu'est-ce que vous voulez? Un enfant sur quatre qui arrive à la maternelle avec un retard de développement. Assez intéressant comme dossier à lire. Et puis, rapidement, vous dire également, en terminant, je veux finir avec cette nouvelle là, qui nous arrive de l'Ouganda. Si vous pensez que la haine, l'intolérance à l'endroit des gays à travers le monde est chose du passé, l'Ouganda a adopté une nouvelle loi qui prévoit des peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité. C'est dans l'équivalent du code criminel. C'est un texte qui devient la loi anti-homosexuelle. Et ce que ça prévoit, entre autres, c'est que ce seront des violations répétées des droits reconnus dans le monde de la communauté gay. Mais si on vous attrape ou si vous êtes dénoncé pour pratique homosexuelle, vous pouvez aller en prison. Et si vous récidivez, qu'on vous attrape plus tard, ben là aussi, vous pourrez avoir une sentence plus grave. Puis est-ce qu'on va parler de la peine de mort? Je ne le sais pas. Mais la Haute Cour de l'Ouganda, par contre, pourrait déclarer cette loi inconstitutionnelle. C'est donc criminaliser le fait d'être gay. Tout ça se passe en 2023. Et les politiciens nous présentent ça comme étant une approche absolument normale pour s'assurer de l'équilibre puis de faire soigner les gens qui sont malades, des gens homosexuels malades. On est encore là, malheureusement, dans certains pays.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Hier, l'annonce du décès de Michel Côté a provoqué une vague incroyable de commentaires. Probablement que lui-même aurait été surpris, touché, ça c'est sûr, mais surpris de voir que les gens ont été marqués par l'homme, mais par les personnages qu'il a incarnés au cinéma, à la télévision, partout, au théâtre évidemment. Michel Côté a connecté avec les Québécois pendant toutes ces années. Et c'est ça qui a amené hier toutes ces réactions du public en général et aussi de ses camarades de travail au fil des ans. Deux sont avec nous ce matin pour partager ces quelques moments. Je vous les présente. Marc Messier, bonjour.
Bonjour.
Et Marcel Gauthier, bonjour.
Oui, bonjour.
Marc, je commence avec toi. Cette relation très spéciale avec Michel Côté, bien sûr, Brou, puis d'autres projets également. Avec le recul de 24 heures, qu'est-ce que tu retiens de Michel?
Ah, ben Michel, je retiens d'abord son talent absolument exceptionnel et sa simplicité, sa facilité d'accès. C'est un gars généreux, très affectueux avec ses amis, puis extrêmement talentueux. Nous autres, on a partagé aussi avec Marcel des moments absolument extraordinaires sur scène, des moments que tu vis pas souvent, parce qu'on avait la chance de jouer en plus dans un spectacle que les gens aimaient, Puis tout le Québec quasiment s'est déplacé pour venir voir cette pièce-là, même des gens qui n'allaient pas au théâtre souvent. Et on savait qu'on était privilégiés. Puis on a vécu ça tous les trois ensemble. Donc, c'est, on était conscients qu'on vivait quelque chose d'un peu particulier. Puis Michel était un peu le moteur de notre groupe. C'est Michel était une autorité naturelle, comme on dit. Alors on était avec lui, puis c'était vraiment merveilleux.
Marcel, parle-nous de cette chimie.
Oh, cette chimie! Eh bien, écoute, c'est une chimie. Nous trois, c'est drôle, j'y repensais, et puis je me disais, on était réunis énormément par l'humour, par le rire et par la joie de vivre. Michel aimait la vie énormément. Et puis, il aimait rire, il aimait faire rire. C'était le meilleur conteur de blagues que j'ai jamais rencontré de ma vie. Il jouait tous les personnages quand il racontait une histoire même ordinaire. Alors, ben, je pense que c'est ça beaucoup qui nous a réunis tous les trois. Alors, ben, oui, on était capable d'avoir des discussions très sérieuses politiques, géopolitiques, sociales et tout ça, mais l'humour et le rire et la bonne humeur faisaient vraiment partie de notre attirail à nous trois. Dès qu'on se voyait, dès qu'on était tous les trois ensemble, il y avait de la rigolade. Ça fait peut-être un peu partie de cette chimie. On était vraiment semblables à ce niveau-là. On s'entendait à merveille tous les trois. Alors, ouais, grande perte, notre ami Michel, bien sûr. Moi, en plus, c'est mon plus vieux chum à vie, celui que je connais depuis qu'on était des enfants, ou pas la petite enfance, mais disons vers l'âge de 10 ans, depuis ce temps-là qu'on se connaît, qu'on s'est jamais lâché. Alors, ouais, ça donne un coup, j'avoue.
J'aimerais ça aussi vous entendre sur le fait, puis ce que Marcel vient de décrire, de porter avec autant de succès le rire, la joie, la joie de vivre, donc le bonheur. Comment Michel, il y a un an et demi, a été confronté à la maladie, à un diagnostic de cancer? Comment il t'en a parlé, Marc, puis comment tu l'as vu à travers ça?
Ah, ça, c'était vraiment très triste. Michel, quand il a appris ça, c'était émotivement, on s'est appelé, puis c'était très émotif, là. Parce que son diagnostic était vraiment vilain, là. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir, la façon qu'ils lui ont annoncé ça, puis c'était un peu la vérité. Mais tout de suite, il m'a dit qu'il se battrait. Il m'a dit qu'il essayerait, mais comme Marcel l'a dit, puis c'est tellement vrai, Michel, il voulait tellement vivre, puis il aimait tellement vivre, il savait tellement bien vivre. Alors, il s'est essayé, il a vraiment... Écoute, moi, j'ai été vraiment impressionné de voir à quel point il a été d'une résilience et d'un courage absolument incroyable, parce que s'embarquer dans ce genre... Puis ses chances de réussite étaient tellement minces aussi. S'embarquer là-dedans, c'était vraiment périlleux, puis il a beaucoup souffert. On lui parlait, nous autres, on essayait d'y croire tout le monde, puis on lui disait de s'accrocher, puis il a quand même gagné quelques mois, puis mais c'était vraiment difficile.
Marcel?
Oui, ben tout ce que Marc dit est juste. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, ouais, Michel, il voulait se battre. Véronique aussi voulait qu'il se batte. Michel aimait tellement sa famille, ses enfants. C'était, en plus d'un grand artiste et d'un grand Québécois, ben c'était un père de famille. Puis c'était vraiment la priorité de sa vie, ses enfants, ses petits-enfants, sa femme. Et puis, il voulait continuer à profiter de cette vie, voyager aussi, profiter de sa retraite. Alors, il voulait se battre. Il a voulu se battre jusqu'à la fin. Mais personnellement, je lui ai parlé la dernière fois, il y a 2 semaines. À ce moment-là, je pense que là, il savait qu'il n'y aurait plus de retour en arrière, qu'il n'y aurait plus de chance. Ça fait qu'il était pas mal défait. Mais, coudonc, il savait où il s'en allait. Puis il était fier aussi d'avoir tout essayé, d'être allé jusqu'au bout, d'avoir tout tenté pour continuer de vivre cette vie qu'il aimait tant.
Marc, il y a quelqu'un près de lui qui me disait que, justement, dans les derniers jours, il avait comme accepté ce qui lui arrivait, là, une forme de résignation peut-être, mais en même temps, la phase d'acceptation qui arrive quand on sent que la fin est proche, souvent pour les gens.
Ouais, j'ai eu cette impression-là, moi aussi, la dernière fois que j'ai parlé. il y a aussi deux semaines, je pense, puis j'avais l'impression qu'il avait comme changé un peu d'attitude, qu'il se préparait maintenant à partir. Il y avait une espèce de je dirais pas sérénité, mais c'est comme si sa décision était prise. Marcel Pimon, on le connaissait bien, puis quand on se parlait, Marcel Pimon, on savait à quel point il en bavait, là. Et il a été vraiment d'une grande dignité, comme toujours, tu sais.
En terminant, je le disais, il a touché les Québécois pour toutes sortes de raisons, et je dirais pour les bonnes raisons. De ce que vous avez entendu hier, de commentaires de camarades, même du public et tout ça, qu'est-ce que vous retenez de ces commentaires, puis qu'est-ce qui caractérise le mieux, Michel? T'es Marcel pour commencer.
Ben, écoutez, j'ai pas entendu beaucoup de choses hier. J'essayais de me préserver un peu même. C'était assez douloureux. Moi, ce que je retiens, et je pense que comme tous les Québécois, c'est que c'est un grand Québécois qui aimait son peuple vraiment. Michel a jamais caché qu'il était indépendantiste, par exemple, tu sais. Alors, ça rejoignait évidemment bien des Québécois, ça aussi. Puis l'amour du public, tu sais, Michel, il l'a mérité. Il a énormément donné sur scène, au cinéma, partout, et pour toutes les causes. Lorsqu'on lui demandait de faire quelque chose, Michel était toujours là, toujours disponible. Et puis c'était sa grande ouverture envers les gens, sa simplicité, comme disait Marc, sa grande ouverture, les gens de toutes sortes, vraiment là, qu'ils soient d'accord avec lui ou pas, peu importe. Michel aimait le monde, aimait les Québécois, il aimait le monde entier, puis il était toujours disponible pour aider, pour donner un petit coup de main, puis alors voilà ce que je retiens surtout de lui, un grand homme, quoi.
Marc, je laisse le mot de la fin.
Ouais, c'était, il y avait beaucoup d'amour, c'est ça, il a reçu beaucoup d'amour, les gens l'aimaient vraiment beaucoup, et moi j'ai été quand même un peu surpris de voir qu'il y avait autant de dommages et tout ça, parce qu'on se rend pas compte. Tiens, on joue juste dans une pièce de théâtre, alors on se dit, est-ce que... Je m'aperçois qu'il a touché vraiment tout le monde, mais c'est sa grande simplicité aussi. C'est un gars accessible, abordable, et puis c'est un gars gentil, c'est bête à dire, mais c'était ça. Il a beaucoup donné, puis il a beaucoup reçu.
Merci vraiment tous les deux d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. C'est bien gentil.
Merci, Chacun.
Okay. Salut, au revoir. Marc Messier et Marcel Gauthier, puis on vous offre, pour conclure, un modeste hommage à Michel Côté. Et ça ramène évidemment beaucoup de souvenirs, des moments marquants de sa carrière. Et pour évidemment se rappeler de ces moments, il faut parler avec les gens qu'il a connus, avec qui il a travaillé. Et Claude Meunier est avec nous.
C'est une grosse perte, Michel. C'est un genre de Guy Lafleur du théâtre. Puis il était très proche, très aimé des gens. Puis il a fait des choses qui vont être mémorables. Ouais, comme disait Michel, il jouait dans La Petite Vie à 7h, puis à 9h, à 8h, il jouait dans Omerta. Fait que c'était comme deux extrêmes de jeu. Ça, c'est typique de Michel Côté.
Puis le jeune Michael Corleone. C'est pas le phare, regardez avec ta gang.
Une chance que tu lâches pas le cellulaire.
On aurait manqué ta fête.
Non, normalement, j'ai pas de cellulaire.
Comment ça, sais-tu que tu délivres la coke?
Hein? Allez, ben avant, tu mettais tout ça dans tes poches, là, tu vas être obligé de donner une cote à ton boss, là. Combien ça va te coûter, ça? 70%?
Va donc donner tes étiquettes, là, au lieu d'écœurer le monde.
Moi, si j'étais Giuseppe, je commencerais à m'inquiéter, parce qu'une jeune recrue, ça aide donc d'attirer l'attention de la police.
Va falloir que t'apprennes à respecter le monde, Gauthier.
Qui avait un talent et un éventail très, très large, si on peut dire. C'est un acteur fantastique, formidable. Puis un gars très attachant, très entier. C'est un gars qui avait beaucoup de caractère. Pas du caractère dans le sens arrogant, fort, mais du caractère. Tu sais, il était solide, là, à quelque part, même s'il était bien, bien sensible. C'est quelqu'un d'hyper sensible.
Je me tourne maintenant vers Rémi Girard.
C'était vraiment, pour moi, un exemple, un compagnon de travail exceptionnel. Et il y a eu, d'abord, dans Le Ventre du Dragon, des Simoneau. Pour moi, ça, c'est un moment de cinéma et de jeu. Et de partnership avec Michel, qui est exceptionnel. Et Michel, c'est ça, c'est un grand acteur, c'est un grand comique, on se rappelle de Brou. Et puis moi aussi, dans l'autre film avec lequel on a travaillé ensemble, c'est le père en flic, le premier. Oui.
La police, là, n'aurait pas été kidnappée si on m'avait donné toutes les chances que j'ai demandé. Quand c'est temps d'envoyer des effectifs en bicycle à pédale sur le bord du canal de la Chine, par exemple, hein, faire de la police communautaire de tickets de caca de chien sur le gazon, là, il y en a du cash, là. Là, il y en a de l'argent, là. Oh, là, c'est le fun, là. Là, il y a des hommes, des femmes en beaux costumes de police, toutes des petits coupes habillées pareilles sur les petits bicycles à pédale avec les gros casques de Mongol.
C'est
qui, lui?
C'est un acteur exceptionnel. C'est un gars très sensible, là, c'est sûr. J'offre toutes mes condoléances à sa famille, tout ça. Puis c'est une grande perte, comme disait Claude. C'est une grande perte pour l'acting.
Maintenant, parmi tous les rôles qu'il a portés à l'écran, on se souvient évidemment du commandant Robert Piché, de ce film absolument marquant. Le vrai commandant Piché est avec nous ce matin.
Vous avez invité une couple de fin de semaine, moi et mon épouse. Puis moi, je pensais que c'était entre amis, puis on va parler du scénario. Mais dans le fond, il m'a dit, après avoir fini le tournage du film, quand je t'ai invité en Estrie, c'était pour voir tes gestes, pour voir comment tu réagissais, voir tes mimiques, pour être sûr et certain qu'à l'écran, j'allais réagir de la même manière que toi, tu réagis dans la vie de tous les jours. C'est drôle, hein, que je m'étais jamais aperçu de ça, puis il a fait ce qu'il avait fait, tu sais.
On est trop haut, puis trop vite.
Je le sais qu'on est trop haut, puis trop vite. T'inquiète pas, je le sais, c'est ça que je voulais. Bon, au questeur, dis-le qu'on va faire un 360 par la gauche pour descendre un peu.
Si la boucle est trop courte, on se plante. Si elle est trop longue, on se plante aussi.
Appelle la tour.
Parce que Michel, à un moment donné, on est en train d'attendre qu'il joue une scène dans le film, puis on était en train de faire des phrases, puis on faisait des blagues, puis on riait, puis avec les techniciens et tout. Puis d'un coup, Sylvain Chambaud, qui était le réalisateur, il dit, Michel, tu viens sur le plateau. Il rentre sur le plateau, puis c'est la scène que je joue pendant que je suis en thérapie, puis je parle au téléphone, puis je prends un message au téléphone, puis j'apprends que ma fille veut plus me parler, m'appuyer, parce qu'elle trouve que je l'ai pas bien élevée. Puis il se met à pleurer, tu sais. Puis à un moment donné, puis il pleurait avec des vraies larmes, là, puis un coup, il sort de la scène, il dit, puis comment j'étais, Robert? Puis je dis, comment, Michel, comment t'étais? 2 minutes avant, on déconnait, puis 2 minutes après, tu pleures. Je dis, comment tu fais pour faire ça? Mais ça, c'est le talent que chaque côté avait. Tu étais capable de jouer toutes les émotions possibles.
La productrice Denise Robert a beaucoup travaillé avec Michel Côté. Elle est avec nous ce matin.
Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un professionnellement qui était un homme d'une grande générosité face aux acteurs avec qui il travaillait, face aux gens de son entourage, face aux équipes aussi, était très, très généreux face aux équipes qui appuient les films. Et puis dans la vie privée, c'était quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de humble, quelqu'un qui aimait beaucoup faire rire, quelqu'un qui était... c'était un vrai ami.
Bonsoir. Le chat, il a mangé la langue.
Faites l'air, gros épais.
Alors, ça vous donne la palette un peu et son grand talent. Salutations à Michel Côté et nos pensées vont à ses proches et à sa famille. Bon, on est tous confrontés à cette violence urbaine, beaucoup évidemment à Montréal, Laval, un peu moins à Longueuil. Et on voit des épisodes violents de différentes natures, que ce soit des coups de feu, des douilles retrouvées, des incendies criminels, des vols de voitures. Il y a du racket à travers tout ça et des événements violents qui font en sorte qu'il y a quand même un certain niveau d'inquiétude dans la population. Et surtout qu'on arrive à la période du beau temps et malheureusement, ça se passe assez souvent quand il fait beau et chaud, ces confrontations entre groupes du crime désorganisés, comme on dit. Donc, Québec qui annonce 5,7 millions sur une période de 5 ans, ça s'ajoute aux montants qui ont déjà été annoncés. Le ministre de la Sécurité publique est avec nous, François Bonnardel. Monsieur Bonnardel, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, on a déjà annoncé un paquet de mesures, le Centaure et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, là, puis à quoi va servir l'argent?
Il faut comprendre, pour les gens qui nous écoutent, qu'il existe déjà des équipes d'intervention contre le crime organisé du côté de la Sûreté du Québec. Il en existe pour appuyer les équipes de Longueuil-Laval, donc Rive-Sud, Rive-Nord, et dans la région de Québec. Présentement, c'est à peu près 27 policiers qui font partie de ces équipes. Et quand on calcule Sud-Montréal dans le projet Eclipse, on peut dire qu'il y a plus ou moins 125 policiers et policières qui sont mis à profit pour combattre le crime organisé. Ce qu'on a annoncé hier, c'est une équipe additionnelle pour épauler Montréal. Donc, c'est une équipe de 10 policiers et policières qui vont accompagner l'équipe d'Eclipse à Montréal dans les prochains mois à partir de l'automne prochain. Donc, c'est un processus normal d'embauche qui nous permet pas de démarrer cette équipe immédiatement. Donc, on va démarrer tout ça à partir du 1er octobre prochain.
OK, mais juste comprendre le mandat, là, quand vous me dites accompagner, je suis pas certain de comprendre ce que ça veut dire, là.
Ben, c'est une équipe d'intervention qui va travailler en amont, en appui avec l'équipe d'éclipse de la ville de Montréal. Donc, qui sera présente en termes de prévention dans les bars, dans les restaurants, pour s'assurer de partager l'information. L'équipe intégrée sur le renseignement aussi qu'on a annoncé, voilà, à peine 10 jours déjà. C'est une première au Québec où il y a le partage d'informations va se faire entre les différents corps de police, entre la GRC, le service de renseignement canadien, l'agence transfrontalière. Donc, c'est tout ça ensemble qui va être mis à profit pour être capable de combattre le crime organisé. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, les statistiques sont pas alarmantes, mais quand on regarde les chiffres des 5 dernières années, blessés par arme à feu, c'est une augmentation de 59%. C'est quand même important. Donc, on peut pas rester les bras croisés. Il faut gagner contre le crime organisé. Donc, on va mettre toutes les équipes possibles sur le terrain pour combattre ce fléau.
OK. Comme ministre de la Sécurité publique, là, puis je vous demande pas des détails d'enquête, là, mais est-ce qu'on vous fait un briefing sur la situation, par exemple, à Montréal?
Oui. On me donne un peu aussi, je parlais avec M. Daguerre, voilà, quelques jours déjà, quand on a annoncé l'équipe sur le renseignement, puis on m'expliquait les méthodes de travail un peu sur le terrain. Je peux pas tout vous dire, mais je vais vous donner un exemple qui les policiers vont aller rencontrer quelqu'un, vont aller frapper à une porte, vont rentrer dans un bar, connaissent certains renseignements, certaines informations, et vont dire à une personne X, ben demain, on sait que tu seras là, on sait que tu vas peut-être frapper, tu auras une arme, ne va pas là. Alors, c'est du gros travail en amont, en prévention. Oui, la répression est importante, là, qu'on me comprenne bien, là, il faut garder les policiers sur le terrain, mais le travail de prévention, prévenir aussi, est important. Et c'est ce que les équipes de Montréal, de Longueuil, de Laval et de la Sûreté du Québec font en amont pour prévenir le plus possible.
Est-ce qu'il y a un enjeu en termes d'effectifs pour l'été? On le sait, là, l'été, c'est là que ça brasse, là, et on a vu beaucoup, il y a, bon, évidemment, les vacances des policiers et tout ça, beaucoup de temps supplémentaire. Est-ce qu'il y a un enjeu à Montréal d'effectifs policiers, à votre connaissance?
Pour les l'été? Équipes qui sont... pour les équipes, c'est certain que, M. Daguerre l'a mentionné, là, il y a un défi d'attraction, d'attraction pour le SPVM. On y travaille, on a formé un groupe de 72 policiers, policières qui ont gradué à l'École nationale de police, voilà, à peine 2 mois. L'embauche de 225 nouveaux policiers aussi pour épauler les équipes avec l'identification violence armée. On va former plus de policiers à l'École nationale de police. On va passer de 650 à 1000 annuellement. Donc, on fait tout notre possible pour être capable d'augmenter l'attractivité, la rétention du SPVM. Cet été, je l'ai mentionné, là, il y a plus ou moins 80 personnes qui sont dédiées spécifiquement à Montréal dans le projet Eclipse contre la violence armée et qui vont nécessairement être épaulés aussi par les équipes à l'extérieur si besoin est. Vous savez, le crime organisé, là, ça n'a pas de frontières, là. Puis là, c'est pas vrai que les policiers vont pas traverser les ponts si on a besoin d'aide à Montréal. Donc, c'est plus ou moins 125 personnes qui sont sur le terrain présentement. On va en financer 10 additionnels en appui à l'équipe de Montréal à partir du 1er octobre prochain pour un financement qui va être pérenne sur 5 ans.
Là, vous me parlez de ce que vous contrôlez. Est-ce qu'il y a des outils qui manquent? Qui sont pas dans votre cour nécessairement, qui sont plus dans le cours du fédéral, qui manquent aux policiers en termes de capacité d'intervention, de messages aussi envoyés à des criminels?
Ben, en termes de messages, moi, je vous dirais, l'urgence pour moi, là, malheureusement, suite au décès de la sergente Brault, c'est le partage d'informations sur les cas de santé mentale perturbés. Rapidement, vous le savez, quand la sergente Brault a été tragiquement perdu la vie, si on avait eu ces renseignements pour bien connaître l'état mental perturbé de la personne, vous nous écoutez, là. Vous êtes à la maison, il y a quelqu'un qui frappe d'un mur, qui crie. Vous savez qu'il y a un problème avec cette personne, vous appelez la police, mais le policier ou le 911 connaît pas nécessairement l'état mental perturbé. Et là, c'est là que le travail de prévention, pour moi, est important, à savoir est-ce qu'on peut obtenir les infos de cette personne. J'ai demandé à 3 sous-ministres, le mien, Sécurité publique, Justice et Services sociaux, d'être capable de donner rapidement le plus d'informations possible en amont et à l'instant présent aux policiers. Et de l'autre côté aussi, c'est d'accompagner le travail des policiers avec des travailleurs sociaux. Dans le plan interministériel de mon collègue Lionel Carman, on a une somme de 60 millions sur 5 ans qui est dédiée pour avoir des travailleurs sociaux dans les postes de police qui accompagnent les policiers en amont et lors d'un appel pour être capable de faire un meilleur travail. Les policiers, on leur en demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce ne sont pas des travailleurs sociaux. mais ces personnes qui les accompagnent dans leur travail font un travail tellement, tellement important qu'on en a besoin, puis il faut assurer la pérennité de ces acquis pour nous là, dans les prochaines années. Là.
OK, je vous amène ailleurs parce que ce matin, la presse nous dit que les services de raccompagnement là, qu'on a bien connus avant la pandémie sont en perte de vitesse, là, des chutes de 45 % en moyenne au Québec, que les gens vont moins dans les bars, qui prennent un verre à la maison, mais qui peuvent repartir en état d'ébriété. D'abord, est-ce que c'est vrai que on note une augmentation du nombre de contraventions pour facultés affaiblies là, puis d'arrestations?
Ben, les statistiques sur les interceptions, ça a été un sujet d'actualité, mais les interceptions aléatoires sont quand même importantes.
Je vous parle pour les facultés affaiblies.
Oui, justement, on a arrêté, juste si je veux pas me tromper, là, les statistiques que j'ai en tête, c'est plus ou moins 1065 personnes qui ont été arrêtées sur 3000 interceptions aléatoires. Ça veut dire que le policier, là, il circule, il voit peut-être un comportement particulier d'une personne qui zigzague ou touche la ligne, le pif d'arrêter le véhicule, puis oui, vous avez une personne qui est en état d'ébriété. Donc, j'ai pas les statistiques globales sur la dernière année, mais il reste quand même que c'est toujours un travail de sensibilisation puis de prévention qui est important, puis de donner tous les outils possibles aux policiers pour être capables de sauver. Puis souvent, dans ces interceptions, si on sauve une vie, c'est ça de gagner.
Mais comme vous avez été au transport, pensez-vous que Québec doit intervenir pour donner un coup de pouce au service de raccompagnement, comme si les gens avaient oublié que ça existait, là?
Ah, c'est pas simple. J'étais là à Noël pour Nez Rouge. On voit malheureusement de moins en moins de bénévoles. Puis je les comprends. Puis je comprends que c'est pas toujours évident de donner du temps. Mais le bénévolat dans tout ça est pas simple. Tolérance zéro aussi. On a de la misère à aller chercher des gens. Donc écoutez, si vous avez du temps à donner, c'est certain que c'est toujours le fun, mais les services de raccompagnement ont besoin nécessairement de main-d'œuvre de plus pour être capable d'épauler puis de raccompagner les gens.
OK, merci, M. Bonnardel. Bonne journée.
Bonne journée, monsieur.
Au revoir. François Bonnardel est le ministre de la Sécurité publique.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, on va parler des événements des dernières heures. Attaque de drones contre Moscou. Ça a été dénoncé comme étant un acte terroriste, mais il y a eu aussi, encore une fois, de nouvelles frappes contre Kyiv, la capitale. Je vais aller retrouver Tetiana Ogarkova, qui est évidemment sur place. Elle est dans la capitale de Kyiv. Tetiana, bonjour.
Bonjour.
Ben, d'abord, parlez-nous un peu des dernières heures dans la capitale. Comment ça s'est passé?
Cette nuit était pas du tout calme puisque, comme beaucoup des nuits précédentes, il y avait une alerte aérienne qui avait sonné vers 1h30 du matin et après elle avait duré plusieurs heures. Cette fois-ci, c'était les drones deux dizaines de drones iraniens qui sont arrivés jusqu'à la capitale. On avait entendu quelques explosions assez lointaines. Le matin, nous avons appris que malheureusement, dans un des quartiers de Kyiv, il y avait un débris de drone en fait qui avait touché un de plusieurs étages et une femme a perdu sa vie lors de cette attaque. Et il y avait aussi l'incendie à cet endroit-ci. Il y avait une vingtaine de personnes qui ont été évacuées. Donc l'immeuble, il est quand même endommagé. Il faudra des mois pour la reconstruction. Donc voilà, c'est un scénario devenu un peu classique. Et depuis le début du mois de mai, on est attaqué par les drones et souvent aussi les drones et missiles pendant les nuits. Ça fait des nuits très courte et ça fait aussi que voilà, on entend carrément toutes les nuits des détonations, on se réveille, on essaye de voilà, soit de se mettre entre deux murs, soit on continue parfois on continue à dormir tout simplement en espérant que ça va pas nous tomber dessus et donc voilà, la situation est très tendue, on voit que les frappes ne cessent pas, que la Russie malgré les attentes a réussi à accumuler un certain nombre de drones et missiles et elle continue voilà sa terreur contre l'Ukraine et contre la capitale d'une manière très très concentrée durant les dernières semaines.
Est-ce que, quand on parle d'infrastructures qui sont touchées, on pense évidemment à des immeubles locatifs, résidentiels, mais par exemple, en termes d'infrastructures pour l'électricité, pour l'eau, comment ça se passe?
Oui, en fait, on ne sait pas s'ils visent délibérément les infrastructures électriques. Ça serait pas logique étant donné qu'on est presque en été, donc ça fait pas beaucoup de sens. Mais il n'empêche que les débris qui nous tombent depuis le ciel, des débris de drones qui ont été abattus ou missiles, il y a des dégâts au niveau des infrastructures d'électricité. Par exemple, dans mon quartier, on vient de passer une période de 30 heures en continu sans électricité et eau courante, puisqu'il y avait justement les débris qui ont tombé quelques centaines de mètres de notre immeuble, en causant quelques destructions mineures, genre les vitres sautées dans un immeuble, mais aussi ils ont touché des infrastructures électriques et donc du coup quelques rues, 4 ou 5 rues dans notre banlieue ont été sans électricité durant des longues heures, 30 heures c'est beaucoup. Et donc voilà, donc parfois voilà, donc des drones et des missiles quand ils sont descendus dans le ciel, il est difficile de savoir où ils vont tomber. Et malheureusement il y a des cas aussi tragiques comme hier, un bus plein de passagers a échappé à un débris comme ça dans moins d'une seconde. Donc au moins d'une seconde, tous les gens qui étaient à l'intérieur pouvaient être morts. Donc tout ceci sont des conséquences directes en fait des drones et des missiles qui tombent un grand nombre, qui survolent un grand nombre, qui arrivent un grand nombre depuis la Russie jusqu'ici et qui sont descendus par la défense aérienne. Mais la défense aérienne, elle peut pas contrôler les débris et tout cela. Malheureusement, il y a les risques toutes les nuits et tous les jours aussi.
Question très personnelle, Tetiana, mais comment on fait, où on trouve la force de vivre au quotidien avec sa famille, les enfants, dans un environnement où on manque d'électricité, où il y a des drones, on entend des explosions, cette espèce de stress permanent, où on trouve la force?
C'est une question très importante, fondamentale. Je pense qu'on trouve la force dans l'idée que on devrait gagner cette guerre pour arrêter ce cercle vicieux de mal impuni. C'est-à-dire que la Russie avait commencé déjà tant de guerres, je mentionnerai Tchétchénie, mais aussi Géorgie, mais aussi Syrie, et maintenant l'Ukraine, et donc à chaque moment, on disait, à chaque moment historique, on se disait, nous allons céder à l'agresseur, nous allons le calmer. Donc cette fois-ci, c'est un combat décisif, on se dit que voilà, donc on a les forces, on a la volonté, la résolution, voilà, de faire face à ce mal et puis de tenir jusqu'à que cet empire, voilà, se décompose, que ce régime tombe et que, en quelque sorte, les Ukrainiens, voilà, en faisant le sacrifice, notamment je pense à ceux qui sont sur le front, en faisant ce sacrifice ultime que de faire face à l'ennemi, on a une chance historique qui ne sera, une chance historique que de cesser en fait ce cercle vicieux. Et donc chaque matin on se lève, on dit il faudra multiplier nos efforts. On voit aussi la solidarité internationale qui est autour de l'Ukraine, et grâce aux citoyens de l'Europe, du Canada, des États-Unis, on se sent suffisamment fort et capable d'arrêter cette guerre, cette lignée de guerre insensée de la Russie. Et donc ça nous motive, et chaque fois, après chaque alerte, quand l'alerte est levée, on se dit, tiens, on garde nos enfants, on sourit, on garde toujours l'espoir que nos enfants, quand ils seront grands, ils vont vivre dans un pays avec la paix et en sécurité, et nos petits-enfants vont naître dans un pays sans la guerre.
Bon courage à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Tetiana. Bonne journée.
Merci, Paul. Bonjour.
Au revoir. Tetiana Ogarkova qui nous parlait en direct ce matin de la capitale de l'Ukraine, de Kyiv.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Très bien. On va parler de l'aide médicale à mourir parce que on a vu dans cette nouvelle, je vais dire étonnante, là, et une pratique qui est assez questionnable, donc de faire en sorte que des gens puissent obtenir l'aide médicale à mourir dans un salon funéraire. Très spécial. Et il y a tout un débat qui s'est engagé. Quels sont les lieux où ça doit se passer, où ça peut se passer? Je voyais des réactions depuis la semaine dernière, puis en même temps, j'ai comme une bizarre impression. Est-ce qu'on va interdire ce genre de pratique ou comment est-ce qu'on va encadrer ce qu'on appelle les critères là pour l'administration de l'aide médicale à mourir? Ça peut se passer où puis de quelle façon c'est balisé? Véronique Yvon est avec nous, l'ancienne députée du Parti québécois, mais qui, on le sait, a évidemment piloté ce projet d'aide médicale à mourir. Véronique Yvon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Je veux vous entendre d'abord sur le principe même là, de tenir ça, ces rencontres et ultimement donc accorder l'aide médicale à mourir à l'extérieur d'un hôpital, à l'extérieur d'une maison de soins palliatifs, pas à l'extérieur de la maison tout simplement.
Ben écoutez, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde ignorait, y compris moi, y compris le ministère, de ce que j'en ai compris. C'est vraiment quelque chose qui est inusité et qui n'avait jamais été envisagé, hein, parce que vous venez de le dire, ce qui est prévu dans la loi, c'est 3 lieux potentiels, tout ce qui est établissement du réseau de santé, ça fait que ça peut être un hôpital, un CHSLD, ça peut être à domicile, comme pour les soins qui sont offerts par les CLSC, ou ça peut être dans une maison de soins palliatifs. Et là, ce qu'on se rend compte, avec cette nouvelle-là qui est sortie il y a une dizaine de jours dans la presse, c'est que il y a un salon funéraire qui a commencé à l'offrir récemment. Et ce qu'on découvre depuis, c'est qu'il y aurait eu d'autres lieux, comme un parc. Il y aurait eu des aides médicales à mourir dans un parc. Il y aurait eu de l'aide médicale à mourir dans un camping, dans un endroit de la CEPAC. Et donc, c'est très questionnant par rapport à la conformité avec la loi, mais aussi avec le message que ça peut envoyer.
Mais d'abord, je vous entendre sur quelque chose parce que, comment je dirais ça? J'ai senti au départ une espèce de plus qu'un consensus, une forme d'unanimité pour dire ça peut pas se passer dans des endroits comme vous venez de décrire. Mais là, j'ai l'impression que c'est moins ferme comme porte fermée.
Je pense qu'en fait, c'est très polarisé. Il y a des gens qui disent c'est mon droit, c'est mon choix, je devrais pouvoir avoir mon aide médicale à mourir dans n'importe quel lieu, sans balise. Et il y a des gens qui sont littéralement outrés. Moi, vous savez, j'ai comme un genre de courrier du cœur. Des fois, je fais cette blague-là. Il y a des gens qui m'écrivent à toutes les semaines. Vous êtes inondés de courriers. Moi, j'ai beaucoup de courriers sur l'aide médicale à mourir. Et il n'y a jamais personne qui m'a parlé de cette pratique-là. Il n'y a jamais personne qui a mentionné ce besoin-là. Alors, je pense que la première chose là-dedans, c'est juste de se dire, il faut faire le débat démocratique comme on l'a toujours fait. Parce que là, d'où ça sort, ce besoin-là? Est-ce qu'on veut le considérer parce qu'il y a des endroits qui le font déjà puis qui trouvent que c'est super? Ou bien on le fait parce qu'il y a une grande volonté démocratiquement exprimée, c'est un enjeu de première importance? Moi, je l'ai pas senti comme ça jusqu'à ce jour, parce que j'en ai jamais entendu parler, et même du besoin. Mais là, une fois qu'on a découvert cette existence-là, je pense que la responsabilité, c'est de garder toujours la même approche. Je pense qu'il a fait notre force au Québec, c'est de retourner chaque pierre, puis d'aller au fond des choses. Donc, pourquoi on le permettrait, pourquoi on le permettrait pas? Fait que je pense qu'il faut considérer tous les enjeux potentiels aussi de messages que ça envoie. Est-ce qu'on est encore dans une logique de soins? C'est ça, au Québec, notre force. Seule loi au monde où c'est un soin sur un continuum, un soin de dernier recours. C'est ça la logique de l'aide médicale à mourir. À partir du moment où vous êtes dans une logique plus de dire, ben, c'est à la tête du client, on peut faire ça au stade olympique. Pour moi, c'est significatif. Dans un, je sais pas, un musée, parce que j'ai été bénévole au musée, puis c'est là que je veux le faire. Est-ce qu'on est encore dans une logique de soins bien encadrés avec les codes d'éthique des établissements qui garantissent? C'est la loi est toute bâtie comme ça, là. Fait que c'est quand même un changement important. Puis aussi, je pense, tout le message, est-ce qu'on est en train de romantiser l'affaire? Est-ce qu'on est en train de banaliser un peu? Est-ce qu'on est en train de dire, OK, ça devient une expérience, à la limite, une mise en scène? Donc, c'est juste, je pense, des questions importantes à se poser comme société qui avançons là-dedans, puis qui l'avons toujours fait de manière très approfondie, puis transpartisane. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de continuer comme ça, plutôt que de dire, oups, là, il y a quelque chose qui est sorti, il faut régler ça en deux temps, trois mouvements. Je pense qu'il faut aller au fond des choses pour pas avoir d'effet de ressac non plus, de dire, wow, où est-ce qu'on est rendu, là, comme quand la nouvelle est sortie.
Mais c'est parce qu'on n'est pas au chapitre des dernières volontés. On est au chapitre d'un recours à une disposition légale qui permet de mettre fin à la vie de quelqu'un à partir d'un nombre élaboré de critères. Il faut qu'il y ait, comme vous dites, une espèce de logique médicale à travers ça. C'est une aide médicale à mourir, là. C'est pas quelqu'un qui dit, ben, moi, je souhaite être exposé dans mon salon, puis l'autre qui dit, ben, je veux que mon urne se retrouve à tel endroit. On n'est pas dans ça, là.
Ben non, c'est ça, c'est que c'est un soin. Et donc, ça commande une logique de soins, d'encadrement, de responsabilité des établissements. Là, je relisais la loi, les établissements, ils sont responsables de dire où ça s'est tenu, c'est quoi leur politique, leur code d'éthique est-il respecté. Fait que oui, il y a une relation patient-médecin, mais il y a aussi toute une responsabilité du réseau. Et moi, je me dis, s'il y a des constats que dans certaines circonstances, on n'est pas capable d'avoir un lieu adéquat, ben, je pense qu'il faudrait d'abord et avant tout aménager dans le réseau, s'assurer que sur chaque territoire, dans chaque CIS, il y a des chambres dédiées, aménagées, adaptées à la réalité de l'aide médicale à mourir. Je comprends très bien que quelqu'un dit, mon Dieu, j'étais dans une chambre complètement déshumanisée qui n'avait pas de bon sens. Premièrement, c'est pas supposé. Dans la loi, c'est prévu que pour vos derniers jours de vie, vous avez le droit d'être dans une chambre seule avec la quiétude et tout ça. Premier droit à faire respecter. Et pourquoi c'est pas vers là qu'on va? Parce qu'il faudrait pas en arriver à ouvrir à n'importe quel lieu, y compris des salons funéraires, parce qu'on n'est pas focusé dans le réseau à offrir ce qu'il faut dans un cadre de soins. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent avec ça. Puis je pense aussi que c'est énormément de poids à mettre à partir du moment où tu créerais le droit que ce soit n'importe où. Imaginez le poids qu'on met sur l'organisation de ça, la disponibilité des médecins, des équipes soignantes, les infirmières qui doivent être en soutien pour l'installation, par exemple, des cathéters, tout ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui mérite, je pense, une attention approfondie. Faisons le débat en profondeur. Ouais. Mais là, c'est sûr qu'il y a des enjeux, parce que là, il y a un projet de loi en ce moment sur des enjeux de fond. Et je pense qu'effectivement, c'est pas ça qui devrait nous stopper de faire avancer sur les enjeux de fond. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis, la loi, elle est claire. Je pense pas que les gens se chicanent partout pour dire ça devrait être permis partout. Donc, allons-y une étape à la fois, puis escamotons pas ce débat-là. Vous savez, en Suisse, c'est le suicide assisté là-bas. Eux autres, ils ont décidé qu'il y avait des lieux dédiés. Il y a des maisons où vous allez pour aller recevoir votre suicide assisté. Mais au Québec, à l'époque, là, il y a 10 ans, 12 ans, les gens étaient outrés de cette possibilité-là. Mais là, si aujourd'hui, on se dit qu'il faut aller vers ça, parce que c'est plus juste des gens qui sont en fin de vie, c'est pas des gens qui sont nécessairement déjà dans un lit d'hôpital ou qui reçoivent des soins à la maison, ben crime, faisons le débat. Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a 12 ans, si on avait évoqué ça, mon Dieu, ça aurait été comme quelque chose de complètement anormal. Alors là, je pense que c'est juste important de faire les choses en profondeur dans le débat démocratique et transpartisan comme toujours.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir. Véronique Kivon, ancienne députée du Parti québécois qui a piloté ce projet de loi donc sur l'aide médicale à mourir. La commission parlementaire à Québec qui en discute d'élargissement. Mais le point est important. Est-ce qu'on laisse ça au bon vouloir de la personne, peu importe l'endroit? Sinon, quelles sont les balises? Et quel je dirais encadrement on peut fournir. C'est pas un cirque cette affaire-là quand même, là. Mais on verra comment ça va être géré par le Parlement à Québec. Commission parlementaire, c'est demain, je pense, que ça continue.
L'essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, dans Le Devoir ce matin, on nous apprend qu'il y a 20 000 enfants québécois là, qui ont été dépistés par le programme Agir tôt qui vise justement à identifier les retards de développement chez les tout-petits, chez les moins de 5 ans. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a le diagnostic, pour avoir l'aide, par exemple, en orthophonie, ben ça peut prendre 10 mois dans certaines régions. C'est un peu ce que dit Marie-Ève Cousineau dans Le Devoir. C'est comme la loterie du code postal, où vous vous trouvez. Puis je pense qu'on devine assez facilement que plus on tarde à intervenir, plus, évidemment, ça peut causer des problèmes à un enfant. Et le nombre d'enfants, moi, ça m'a jeté à terre, là, les propos du docteur Carman, le ministre, qui dit que le nombre d'enfants qui se retrouvent en difficulté quand ils arrivent à l'école, là, des enfants qui, malheureusement, ont déjà un retard de développement, c'est pratiquement 1 sur 4. C'est comme, ça n'a pas de bon sens. Paul-André Galland est le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Monsieur Galland, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, est-ce que, en termes de diagnostic, de volume de diagnostic, c'est si important que ça, là, les retards de développement chez les tout-petits?
Ben, en fait, au niveau du langage, en tant que tel, on parle de environ 10 % des enfants qui ont un retard de langage. Mais oui, la conséquence de tout ça, c'est des troubles d'apprentissage quand ils arrivent à l'école, en effet.
OK. quand mon enfant, là, puis si on prend un cas type, là, mon enfant est évalué, il y a du dépistage et qu'on identifie son problème, quels sont les délais entre ce moment-là puis le moment où il va être vu par un ou une orthophoniste?
Alors, je pense que l'article de Marie-Ève Cousineau est assez clair. Ces délais-là sont variables d'une région à l'autre. Nous avons vu des délais de 3 mois jusqu'à 12 mois, même 18 mois à certains égards. Le problème dans tout ça, c'est que le Agir tôt est un bon programme. On est heureux que ce programme soit là. Il fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire dépister, intervenir tôt auprès des enfants qui ont un certain retard pour pouvoir stimuler leur langage et rattraper certains retards. Mais maintenant, pour ceux qui ont besoin d'intervention, d'un diagnostic, d'une intervention plus spécialisée, alors là, le temps d'attente, le délai d'attente est toujours présent. Il était là avant Agir tôt. C'est pas quelque chose de nouveau, mais l'écart est important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour des enfants qui sont à risque, donc ceux qui sont dépistés par Agir tôt, le délai d'attente raisonnable, c'est de 1 à 3 mois. Et on est loin de ça.
Mais ça veut dire que des parents qui ont peut-être plus de moyens vont faire le choix d'aller au privé si les ressources sont disponibles plus rapidement?
C'est bien vrai. Je vous dirais que même au privé, par contre, il y a aussi de l'attente. Mais oui, c'est les parents qui ont les moyens peuvent peut-être accéder davantage. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est que quand on dépiste, faut pas oublier qu'on met aussi les parents dans un état d'alerte et de vigilance. C'est comme si on dépistait, par exemple, un cancer, mais qu'on vous disait, vous allez seulement avoir une intervention dans 1 an. Ben les parents, ça cause du stress, ça cause beaucoup de problématiques aussi, même au niveau de la famille. Donc oui, ils vont vouloir par tous les moyens essayer de régler la problématique. Donc certains vont s'endetter pour aller au privé, effectivement. Donc et c'est pas accessible aux plus vulnérables non plus.
Non, et même au privé, vous le dites, là, il y a un temps d'attente aussi qui est réel.
Effectivement. Donc, malgré une augmentation, on a doublé le nombre d'orthophonistes depuis 20 ans au Québec, mais les besoins ont augmenté énormément aussi.
Je vais poser une question qui va vous paraître étrange. Est-ce qu'il y a plus d'enfants qui ont des troubles ou c'est parce qu'on les remarque, on fait du dépistage, puis on tente vraiment de les aider, puis alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, on laissait passer?
Je pense pas qu'on le laissait passer, mais je pense qu'on dépiste mieux, on dépiste plus tôt. D'ailleurs, Agir tôt, c'est l'objectif, hein. Donc, on les voit arriver plus tôt dans nos bureaux, effectivement. Puis, on comprend mieux les conséquences de ces retards et de ces troubles de langage-là à long terme maintenant. Donc, c'est ce qui qui fait qu'on veut agir beaucoup plus tôt parce qu'on sait que si on n'agit pas tôt, ça a des conséquences sur le développement ultérieur.
C'est clair. Merci, M. Galland. Bonne journée.
Ça me fait plaisir. Bonne
journée.
Au revoir.
Paul-André Galland est le président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.
C'est 23.